VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Rwanda, six responsables d'église pentecostistes, dont l'évêque Innocent Rugagi, ont été arrêtés pour s'être opposés à la fermeture de plus de 700 églises non conformes aux normes de sécurité et d'hygiène récemment décidées par le gouvernement. C'est ce qu'annonce le porte-parole de la police rwandaise Théo Badegué. Selon lui, après la suspension des églises visées, certains leaders religieux ont commencé à tenir des rencontres illégales pour s'opposer et faire obstruction à la directive gouvernementale, d'où une enquête de la police et l'arrestation des contrevenants. La décision des autorités rwandaises de fermer 714 églises et une mosquée à compter du 1er mars à Kigali, la capitale, pour non-respect des normes requises, avait surtout affecté des petites églises pentecostistes et suscité des critiques de plusieurs leaders religieux qui accusent le gouvernement d'être trop strict. Violence en RDC, la Cour pénale internationale CPI doit rendre jeudi son jugement en appel sur les réparations de millions de dollars contestées par les chefs de milice congolais Germain Katanga, qui les juge non proportionnels au rôle qu'il a joué dans des attaques en Ituri, dans le nord-est du pays. La Cour basée à La Haye avait fixé en mars 2017 à $250 symboliques par personne les réparations destinées aux 297 victimes et estimé que M. Katanga était personnellement responsable du paiement d'$1 million pour réparer le préjudice. Germain Katanga a interjeté appel de cette ordonnance en réparation. Et toujours concernant la RDC, une dizaine de mouvements ont appelé à une grève générale pour ce vendredi. Ils entendent protester contre la mort de militants dans ce qu'ils appellent la répression criminelle des marches contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Le point avec Abdourahmane Dia.
Pour Gloria Senka, militante du mouvement Lutte pour le changement, une des organisations à l'origine de l'appel, cette journée ville morte vendredi sera en mémoire des manifestants tués. Il s'agit d'honorer les mémoires des héros tombés sur le champ de bataille en livrant l'ultime combat de leur vie, celui de la justice, de la liberté et de la démocratie, a-t-elle dit. Le 25 février, deux personnes ont été tuées par balle en marge des marches organisées par le comité laïque de coordination CLC. Les autorités parlent de bavure et annoncent que leurs auteurs ont été arrêtés. L'un des policiers a été condamné à la prison à perpétuité à l'issue d'un procès express. La marche du 25 février était la troisième d'une série organisée à l'appel du collectif d'intellectuels proches de l'Église catholique. Ces manifestations ont déjà fait 17 morts d'après l'Église catholique et la mission des Nations Unies en RD Congo.
En République centrafricaine, deux groupes armés se disent satisfaits de leurs engagements pour la paix et la cessation des hostilités. Les anti-Balaka et les 3R ont passé en revue leur accord de non-agression signé en décembre dernier dans le nord-ouest du pays. De Bangui, le compte-rendu de notre correspondant Freeman Sipila.
Après plusieurs mois d'affrontements meurtriers entre 3R et Anti-Balaka dans le nord-ouest de la République centrafricaine, les deux groupes armés signent le 15 décembre 2017 un pacte de non-agression. L'accord prévoit la cessation des hostilités, la libre circulation des personnes et de leurs biens et le respect de l'autorité de l'État. Près de trois mois aujourd'hui, l'heure est au bilan. Dimanche 4 mars, les deux mouvements armés ont passé en revue leurs engagements dans la ville de Bouar. Général Sio, numéro 2 du mouvement 3R.
C'est vrai, après l'accord de 15 décembre 2017, il y a eu beaucoup de changements parce que c'est un accord de non-agression et de libre circulation. Non-agression entre le groupe 3R et les anti-Balaka. Depuis lors, il n'y a jamais eu d'agression. Et la libre circulation a repris et beaucoup de personnes sont retournées dans leurs anciennes résidences.
Dans le rang des anti-Balaka, c'est également la satisfaction, même si quelques dérapages restent à corriger côté 3R selon les responsables. Les deux groupes armés se sont mis d'accord pour mener une vaste sensibilisation dans toute la région du Nord-Ouest en faveur de la paix et la cohésion sociale. Général Sylvain Adamoundali, coordonnateur des anti-Balaka de la Nana Mombéré. Depuis la signature de cet accord le 15 décembre 2017, j'ai remarqué beaucoup de signaux positifs. La seule chose que je déplore, c'est que certains éléments de 3R se promènent encore avec des armes. Pour moi, si nous acceptons de nous faire la paix, personne ne doit plus se promener avec les armes, les couteaux ou la tenue militaire. C'est le petit dérapage que j'ai noté. De leur côté, ils m'ont rassuré qu'ils tiendront compte de cela. Nous avons convenu de mener ensemble une vaste sensibilisation auprès de la population de la Nanamombéré en faveur de la paix, pour leur dire que nous ne sommes plus des ennemis et que la guerre est terminée. L'évaluation s'est déroulée en présence des autorités préfectorales et de la MINUSCA, la mission de l'ONU. Le prophète de la Nanamombéré, Alexis Nagizangba, note une nette amélioration de la situation sociale et sécuritaire dans sa préfecture.
Depuis l'accord de 15 décembre jusqu'à aujourd'hui, il y a un progrès considérable. Il y a la libre circulation et les violations des droits de l'homme complètement réduites parce que les parties prenantes essaient de tout faire pour faire respecter cela. Et voilà, aujourd'hui encore, ce qui m'a marqué, les deux groupes ont fait une déclaration conjointe à la presse. Et encore, ils disent, ils vont organiser des missions de sensibilisation conjointes. Ça veut dire Anti-Balaka et 3R dans un même véhicule pour aller sensibiliser la population. Les deux groupes qui étaient hier des ennemis sont devenus des amis, même que des frères, pour œuvrer pour la paix dans la Nanamombéré.
Pour garantir la paix, les deux groupes armés demandent au gouvernement d'accélérer le processus de désarmement et de restauration de l'autorité de l'État dans la région. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Nigeria, une attaque suicide menée par une personne à bicyclette portant une ceinture d'explosifs a fait 3 morts et 18 blessés lundi soir dans la banlieue de Maiduguri, principale ville du nord-est du pays. Cette attaque porte la signature des djihadistes de Boko Haram, selon un responsable de la milice civile qui aide les forces armées nigériennes à combattre le groupe djihadiste. L'insurrection de Boko Haram dans le nord-est a fait plus de 20 000 morts et 2 600 000 déplacés depuis 2009. Et toujours concernant la lutte contre les djihadistes au Sahel, le Pentagone a réagi hier à une vidéo diffusée par le groupe État islamique montrant les soldats américains tués dans une embuscade au Niger. Pour le Pentagone, cette publication démontre la perversion du groupe djihadiste Bagassi Courant.
Le ministère américain de la Défense est informé de la publication de photos et d'une vidéo de propagande sur l'attaque terroriste du 4 octobre au Niger. C'est ce qu'a indiqué le Pentagone dans un communiqué, ajoutant que cette publication montre la perversion de l'ennemi que nous combattons. Cette compilation d'images dure 9 minutes et circule sur les réseaux sociaux depuis le 4 février. La vidéo montre des soldats américains sous le feu des assaillants et les corps ensanglantés d'au moins 2 Américains. L'un des soldats est d'ailleurs achevé sous l'œil de la caméra. Le 4 octobre, une cinquantaine de combattants djihadistes équipés d'armes automatiques, de grenades et de mitraillettes avaient tendu une embuscade à un convoi de 12 soldats américains et 30 soldats nigériens près du village de Tongo-Tongo au Niger. 4 soldats américains et au moins 5 militaires nigériens ont été tués. L'attaque a été revendiquée par Abu Walid al-Sahraoui, l'émir du groupe État islamique au Sahel.
Première visite du secrétaire d'État américain Rex Tillerson en Afrique. La tournée du chef de la diplomatie américaine qui commence ce mardi va le mener au Tchad, à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et au Nigeria. Brian Newbert, l'un des porte-parole du département d'État américain, explique les enjeux de ce périple.
Le secrétaire Tillerson, comme vous savez, a invité 37 délégations africaines à Washington novembre passé. Et donc, il a commencé une série de consultations avec ses homologues africains. Et cette visite est la suite de ces discussions. Je voudrais souligner que ce n'est que la première visite en Afrique. Donc, ces 6 pays sont très importants, mais nous savons bien qu'il y en a des autres. Donc, il y aura encore une visite en Afrique, on imagine, pendant l'année. Les États-Unis en Afrique, nous avons 3 priorités. Tout d'abord, la démocratie, puis deuxième, développement économique, et troisième, en général, la sécurité et stabilité. Ces 3 éléments, ils vont ensemble. Et le secrétaire Tillerson, il va discuter tous les 3 dans ses réunions officielles.
Brian Newbert, porte-parole du département d'État américain. Et pour terminer, au Nigeria, l'épidémie de fièvre de Lassa a fait 110 morts depuis le début de l'année 2018 sur 353 cas confirmés. C'est ce que souligne un nouveau bilan communiqué ce mardi par les autorités sanitaires nigérianes. La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé avait parlé de 72 morts sur 317 cas confirmés. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.